Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Comme je te le disais, tu vois, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui écoutent le podcast et j'espère qu'ils écouteront cet épisode en particulier. Beaucoup de jeunes aussi qui viennent justement des crêpes ou qui sont dans les filières en fait du haut niveau. D'ailleurs, merci d'écouter et vous faites bien d'être là parce que on va pas faire les vieux schnocks faire les donneurs de leçons, mais en tout cas on va essayer de donner quelques pistes. Dans ton reportage, et c'est un constat qu'on a fait tous les deux, c'est que c'est pour certains extrêmement virulent la reconversion d'après sport parce que tu vis effectivement pour une passion avec un objectif qui est très clair, c'est toute ta vie, c'est tout ton environnement, tout est basé là-dessus. Et du jour au lendemain, déjà tu changes d'environnement, ce qui est déjà très 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 compliqué. Et puis en plus, t'es tout seul. pour le faire, parce que y a aucune autre solution. Et on voit que chez certains, ça a des conséquences dramatiques. Dans ton reportage, dans le documentaire, on voit effectivement un témoignage sur de l'alcoolisme, on voit des crises de dépression, des crises d'angoisse. Moi, j'ai pu aussi avoir des gens sur ce podcast qui parlaient de crises d'eczéma, d'urticaire, des crises d'insomnie, beaucoup, beaucoup de choses. Mettons-nous deux minutes là à la place du jeune qui a 18-19 ans, qui est passionné par son sport, qui a envie, qui rêve d'être champion olympique très bientôt, qui rêve de ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place dès maintenant? Alors peut-être on peut prendre le personnage du jeune qui a 20 ans aussi. Je pense que on a tous passé par là. On a aussi besoin de cette période un peu de pas de manque de maturité, mais tu vois, d'aller au fond des choses et d'être obsédé par quelque chose et pas trop de penser à l'après. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place, tu vois, quand on est sportif de haut niveau pour aller à minima que ça soit moins virulent, sans se poser la question de se dire qu'est-ce que je vais faire après, mais au moins de se dire comment la passe, elle va être un petit peu plus douce.
Le premier point, je pense, c'est de rester curieux et ouvert sur son environnement et la société et le monde. On fait du sport, c'est génial, on se regarde le nombril tous les jours, mais enfin, on est quand même dans un monde. Il se passe des choses dans le monde. Donc, de garder un œil ouvert et une fenêtre ouverte sur la vie de ses copains, de sa famille, de la société, de ce qui se passe dans le monde, d'être curieux. Je pense vraiment, en tout cas moi, à regarder tous les sportifs que j'ai pu accompagner, ceux qui ont gardé cette ouverture, cette curiosité envers les gens, envers la société, envers différentes thématiques. Alors pour certains, c'est l'économie, la finance, l'environnement, mais qui gardent une connexion avec autre chose que le sport. C'est vraiment important. Ça va être sa famille, ça va être tout ce que vous voulez, mais ne pas rester enfermé dans son monde où il n'y a que du sport, que des sportifs, que des gens qui vous parlent le sport du matin au midi et au soir.
Et se forcer peut-être à créer une
nouvelle
passion.
Oui, se forcer. Alors, souvent, on en a. C'est juste qu'on ne se donne pas la peine ou on suit le groupe. Mais en tout cas, ceux qui ont résisté à cette tendance-là et qui ont gardé un contact avec l'extérieur s'en sortent mieux que ceux qui se coupent complètement. Après, c'est difficile de remettre un pied dans la société quand on ne l'a pas vu évoluer. Ouais. C'est comme quand tu pars un mois à l'étranger, quand tu reviens, il y a plein de choses qui te surprennent. Ouais. Là, c'est pas grave, mais quand c'est pendant 20 ans que tu mets plus un pied vraiment dans la société, c'est quand même un peu compliqué. Donc, le premier point, c'est celui-là, c'est rester ouvert, rester curieux, ne pas s'isoler. Le deuxième point, qui est fondamental, c'est considérer que l'identité de sportif que l'on a, c'est une partie de son identité. Quand on est sportif, on rentre dans une discipline, on s'y investit totalement, on se passionne pour la discipline et on devient un membre de cette famille-là, de son sport. On en incarne les codes. Enfin, moi, j'allais souvent dans les crêpes. Tu reconnais un sportif à la façon dont il se comporte, dont il s'habille, dont il est coiffé, dont tu les reconnais, les mecs ou les nanas. Enfin, tu sais quel est son sport. Donc, il prend tous les attributs de son sport. Donc, son identité, pour lui, elle se construit dans sa pratique sportive, dans le sportif qu'il est. Il se reconnaît, il est valorisé, il se reconnaît en tant que sportif. Il est valorisé comme ça, son environnement le reconnaît comme ça, sa famille parle de lui comme ça. Il n'est que le sportif. Et donc, le jour où il n'est plus sportif, c'est ce qu'ils disent tous dans le film, hein. Il y a un moment donné où quand ça s'arrête, c'est qui je suis. Donc maintenant, je ne suis plus sportif. Et donc, pour répondre à ta question, ce à quoi il doit rester attentif, c'est au fait que ça n'est qu'une partie de lui-même. Mmh. C'est son identité sociale, c'est la place qu'il a dans la société, son identité sociale. Mais son identité personnelle, elle va rester. Et il va l'embarquer avec lui dans une future identité sociale qui sera comptable, chauffeur, livreur, j'en sais rien, ce qu'il veut. Et son identité personnelle, elle est faite de toutes les ressources, de tous les atouts, de toutes les compétences, de toutes les qualités qu'il a développées dans sa carrière sportive et dans son identité de sportif. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait le livre il y a quelques années. C'était pour dire aux sportifs, attention, vous n'êtes pas que le sportif que vous avez été. Moi, ça me désole quand 20 ans après, on présente encore un ancien sportif par le fait que... en tant que il a gagné la Coupe du Monde en 98. Je trouve ça désespérant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis rien. Je ne suis toujours que l'ancien que j'ai été. Je trouve ça terrible.
Je fais une passerelle parce que je lisais ce matin un article dans un très grand média business qui présente un PDG du CAC 40. La première ligne, c'est sur ses études et son cursus universitaire. La personne doit avoir 60 ou 70 ans, tu vois, et tu te dis, c'est encore défini parce que la personne a fait il y a 25 ans. C'est dingue.
Enfin, et dans le sport, t'as des entraîneurs,
et pour moi, c'est encore
pire. On te les présente avec la taille et le poids qu'ils faisaient à l'époque où ils étaient athlètes. Comme si on ne pouvait plus. Et donc, changer d'identité, c'est quand même redoutable quand même tout ton environnement te ramène à l'identité sociale que tu avais quand t'étais champion. Le sportif, il doit se rendre compte qu'il a une identité sociale aujourd'hui, qui est champion de basket, de tennis, de tout ce qu'il veut, que ça alimente une identité personnelle qui est faite de qualités, de compétences, qui sont d'une richesse inouïe. Pour mettre les mains dedans depuis 20 ans, je certifie que ce sont des richesses incroyables. Ouais. Et que pour réussir l'après, ça veut dire qu'il faut qu'il s'approprie toutes ces richesses-là, parce qu'il va les embarquer avec lui. Oui, il va laisser son sac de sport au vestiaire. Mais dans son attaché-caisse, il va pouvoir mettre toutes ses qualités, toutes les ressources, toutes les compétences qu'il a développées pour être le champion et qui sont en lui, qui restent en lui et qui restent dans son identité à lui et qu'il va pouvoir embarquer dans sa nouvelle vie. Et donc, je pense que pour le sportif, c'est vraiment très important pour lui qu'il sache relativiser en disant « Ok, je m'appelle cycliste, je m'appelle champion de tennis aujourd'hui, mais c'est transitoire, il y aura autre chose après. » Et ça sera très bien aussi parce que j'y serai à nouveau moi-même et je pourrai à nouveau m'y épanouir. Parce que j'ai plein de ressources.
Tu as lu le livre Growth Mindset de Carol Dweck.
Tu m'avais dit que tu aurais des questions pièges. Hein. Non, je ne l'ai pas.
Non, mais c'est pas. Écoute, c'est un bouquin qui a eu énormément de succès, tu vois, dans le développement personnel. Et j'ai des amis RH qui l'ont lu aussi et qui l'ont beaucoup aimé. Il est très connu aussi dans le milieu un peu du coaching. Et tu vois, tout ce que tu décris là, c'est un des fondamentaux du livre, c'est que justement l'état d'esprit de croissance, donc les personnes qui évoluent, qui vont de l'avant, ce sont les gens qui se définissent plus du tout par un statut et qui oublient en fait complètement leur statut et qui n'oublient pas qui elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes, tu vois. Et j'ai l'impression qu'effectivement, à la fois pour un athlète de haut niveau, peut-être qu'il peut aussi s'y complaire, tu vois, parfois à être ce statut-là, et aussi en même temps, la société le met énormément dans ce statut, quoi.
Mais c'est ça, t'as pas le droit d'en sortir. T'as pas le droit d'en sortir. C'est-à-dire que tout te ramène, tu 20 ans après, on te croise dans la rue et on te fait signer un autographe parce que t'as gagné à Wimbledon il y a 20 ans. Tu sais, j'ai une vie depuis, je suis quelqu'un d'autre. Enfin, c'est terrible d'être amené tout le temps. Alors, c'est certainement un peu plaisant aussi, mais quelque part, ça enferme et ça empêche de développer autre chose, de développer une autre identité. Même si cette identité de sportif, elle nous habitera toute notre vie. Moi, mon nom de famille, c'est le volet. On se reconnaît tous par ce nom. Tous les anciens volleyeurs, et je suppose que c'est dans tous les sports comme ça. On se reconnaît. C'est une famille. On parle une langue qui est commune. Donc ça reste bien évidemment, mais c'est surtout pas exclusif d'autres choses.
Ouais, bien sûr. Ça n'emprisonne pas dans un statut en particulier. Mais écoute, c'est hyper intéressant. Je te recommande vraiment de lire ce livre. Il est vraiment passionnant et je pense, tu vois, c'est d'ailleurs un des, j'allais préparer un petit écrit là-dessus. C'est un des gros paradoxes pour moi selon lequel les sportifs de haut niveau doivent résoudre. C'est que justement, en fait, l'état d'esprit de croissance, le growth mindset, comme il est dit, c'est de détacher les résultats de ses actions et de se dire aujourd'hui, en fait, je ne suis pas un résultat. Je ne suis pas, ok, je suis champion olympique, mais en fait, ce qui a fait que je sois un champion olympique, c'est que tous les matins, je sois sur la piste et que tous les matins, je cours. Et c'est ça qui me façonne en tant qu'être humain.
C'est ça. Et c'est ça que j'emporte dans l'après.
Ouais, exactement. Et c'est ça que je prends dans l'après. Et c'est pas le résultat. Ok, j'ai été quatrième, j'ai perdu. Mais ça ne me définit pas en tant qu'être humain. Ce qui me définit en tant qu'être humain, c'est toutes les actions que j'ai mises en place avant, quoi.
Exactement. C'est exactement ça. Et du coup, ça permet aussi, quand on n'a pas réussi, de se dire je ne vaux pas rien. Parce que moi, le sujet que je traite là, il concerne, je sais pas, il y a peut-être 50 000 sportifs, on a du mal à avoir des chiffres parce qu'il n'y en a pas. Mais il y a peut-être 50 000 sportifs aujourd'hui qui sont des gens qui font du sport leur activité principale, même s'ils travaillent à côté, c'est pour se financer leur sport. C'est un petit boulot à côté pour vivre, mais c'est pour pouvoir continuer à vivre leur passion. Et qui, à un moment donné, vont devoir passer dans un après complètement sans sport. Donc, c'est un sujet qui concerne aussi des gens qui n'ont jamais rien gagné de leur vie, mais qui, pour autant, ont mis des comportements quotidiens qui ont beaucoup de valeur et beaucoup d'utilité dans d'autres choses. Et c'est tout cela aussi, moi, que je veux rassurer sur le fait que, OK, t'as été un sportif de National 2, de National 1, d'élite, t'as pas été au plus haut niveau, mais pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as mis un certain nombre d'ingrédients qui ont fait que t'as performé peut-être au maximum de ce que tu pouvais faire, et qui ont beaucoup de valeur. Et donc, il faut qu'on arrive à traduire le geste sportif en autre chose que t'as fait une belle passe, ou t'as marqué un beau but, ou t'as marqué un beau panier. C'est t'as fait une belle passe, ben t'as réussi à prendre en compte ce qu'il y avait dans ton environnement, t'as produit une analyse extrêmement rapide, instantanée, des forces adverses, de tes forces à toi. Tu as mis en place une stratégie, tu as pris des décisions d'une façon hyper agile et hyper réactive. Voilà, tant qu'on n'arrivera pas à nommer ce qui se joue dans un geste technique autrement que dans la technique, on n'arrivera pas à faire se rendre compte aux sportifs qui développent des trucs qui sont super et qui ont surtout du sens, notamment dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, la prise de décision, la mise en place d'une stratégie, la capacité à analyser rapidement son environnement, en faire une synthèse. Je repense à un moment très intéressant que j'avais vécu avec le groupe des sportifs de la FDJ Sport Factory. Là, il y avait Kevin Mayer et je les faisais travailler là-dessus. Et Kevin Mayer, quand on fait le débriefing à la fin, nous dit bah oui, moi si j'analyse mes compétences, la compétence qui fait que je suis le sportif que je suis aujourd'hui, c'est la capacité à analyser et synthétiser l'information. Je défie n'importe quel RH de voir ça en premier chez Kevin Mayer quand il le regarde. Tu vois ? Et pourtant, bien évidemment, que pour travailler 10 disciplines, il faut être capable à la fois de les analyser chacune d'une façon extrêmement précise pour faire des liens, pour faire des ponts, pour faire de l'économie d'énergie, pour faire de l'économie, tu vois, pour trouver ce qu'il y a de commun et ce qui doit être travaillé de façon spécifique. Donc, on est vraiment dans de l'analyse de données. C'est une compétence extrêmement intéressante dans le monde de l'entreprise. Mais ça, on n'a jamais un entraîneur qui va lui dire c'est ça qui fait que tu es un champion. Tu vois ce que je veux dire ? C'est donc toute cette traduction-là qu'il faut qu'on aide le sportif à faire pour que, encore une fois, il ne se résume pas à un geste technique, à une performance, à un temps,
Ouais, je vois tout à fait et je trouve que ta démarche, elle est excellente, tu vois, de décortiquer, en fait, finalement, de prendre énormément de recul par rapport à la vie et aux gestes du sportif, tu vois, et qui sont, on va dire, ses compétences premières, son geste, et de le rattacher effectivement à des choses qui sont beaucoup plus méta et beaucoup plus transposables, en fait, c'est si ça. Tu veux, à d'autres choses.
Ce que j'ai su faire dans cet environnement-là, et enfin nous, c'est tout le travail que l'on fait dans l'accompagnement des sportifs, c'est de dire, ben voilà, si tu as su le faire dans cet environnement-là, ok, tu maîtrises cet environnement et tu ne maîtrises pas l'environnement du monde du travail, donc, mais ça, c'est pas très compliqué, tu vas vite comprendre, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette agilité, cette adaptabilité, cette capacité à maîtriser tes émotions, ces capacités à prendre des décisions, ces capacités à être un leader, à travailler. Oui, tu l'as fait dans le monde du sport, mais on va t'aider à emporter ça dans le monde de l'entreprise. Et là, une fois qu'ils ont compris qu'ils ont ce capital en eux et qu'ils ont compris comment ça va pouvoir se redistribuer, se réinterpréter, ce rôle-là va pouvoir se réinterpréter dans le monde de l'entreprise. Mais là, on a des sportifs déjà qui vont beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'ils prennent possession de leur poste avec une facilité et une rapidité incroyables. Et puis, bah, surtout, on avait des Ferrari avant, on a à nouveau des Ferrari là-bas. Hein. C'est... La semaine dernière, j'ai un sportif qui m'appelle. Il ne voulait pas reprendre des études. Quand on a commencé à travailler, il me dit « Écoute, ok, on est bien d'accord. Hein, moi, tu me referas pas reprendre des études. J'ai 35 ans, c'est bon. » Bon, et puis finalement, compte tenu de son projet, il a repris des études. Et la semaine dernière, il m'appelle, il me dit « Ça y est, je viens de valider mon premier certificat, je suis major de promo. » Parce que c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours y mettre le maximum d'intensité, le maximum d'investissement et aller chercher la meilleure performance. Quand tu as été comme ça dans le sport, tu ne peux pas être autrement après dans ton environnement professionnel. Ouais. C'est
justement, c'est un des sujets que j'aimerais bien aborder, c'est est-ce que ils sont tous faits pour l'entreprise, parce que tu vois, un athlète de haut niveau, effectivement, ça a une obsession, c'est la performance, ça c'est sûr. Et tu vois, certaines entreprises ou certaines équipes, business units, départements, peuvent avoir tendance à ne pas prioriser toujours la performance. T'as peut-être une performance globale, mais à une échelle plus petite, ça peut être très politique, ça peut être très... peut y avoir beaucoup d'autres enjeux que uniquement la performance. Est-ce qu'ils s'en rendent compte de ça, tu vois, que l'entreprise n'est pas forcément un secteur de performance toujours?
Alors ça, on leur dit. On leur dit, ils le comprennent assez vite, que culturellement, on n'est pas forcément, toutes les entreprises ne sont pas animées par les mêmes motivations, et que tous les collaborateurs dans une entreprise ne sont pas animés par les mêmes motivations. Donc ça, on leur dit, attention, vous venez avec une culture de la haute performance, une culture de la recherche de l'excellence, mais tous les univers professionnels ne fonctionnent pas comme ça. Donc, ou bien tu as cette capacité à t'adapter, ou tu n'as pas envie. Et puis dans ce cas-là, il faut choisir un univers professionnel dans lequel tu vas pouvoir remettre ça. Parce que j'ai souvent eu, moi, le retour de sportifs qui sont vécus par leurs collègues ou leurs collaborateurs comme des bourreaux. J'ai une personne, elle était même accusée de harcèlement. Harcèlement moral, parce que dans l'exigence, dans l'attente, dans... Tu sais, quand on est sportif, on se dit, écoute, si tu veux, tu peux. Si tu veux un résultat, tu t'en donnes les moyens. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on est sportif. Donc, dans le monde de l'entreprise, quand on entend des gens qui gênent un peu en disant, oh oui, mais il me manque ci, il me manque ça, j'arrive pas à ça. Souvent, le sportif, il peut se dire, bah, tu sais pas, tu te relèves les manches et puis tu y vas, quoi. Et ça, bah, y a des univers professionnels dans lesquels on n'est pas tout à fait apte capable entendre ce genre de discours. Donc des fois, le sportif, moi j'ai des sportifs qui me disent, on s'est fait sortir un coup de pied au derrière parce qu'on nous a dit, mais t'es malade, c'est pas comme ça qu'on parle chez nous, c'est pas comme ça. La vérité du vestiaire, elle reste dans le vestiaire, mais pas dans les bureaux, tu vois. Donc il faut aussi qu'ils comprennent ça. Donc tous n'ont pas ni l'envie, ni cette capacité à s'adapter. Il y en a qui peuvent le faire très bien, hein. Il y a beaucoup de sportifs qui s'adaptent très bien, c'est pas un problème. Mais s'ils n'ont pas envie de ça, il faut qu'ils aillent vers d'autres univers. Il y en a énormément qui vont dans l'entrepreneuriat. Alors, il faut voir si l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se faire recruter du monde de l'entreprise. Il y en a aussi beaucoup qui choisissent ça par défaut, parce que comme ils n'ont pas le CV, ce fichu CV...
C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, hein, tu sais.
Oui, mais bien sûr. Comme on n'a pas le CV, on se dit, oh, ok, bah, je vais jouer tout seul.
Je n'ai pas trouvé de boulot, je vais le créer.
Voilà,
quoi.
Exactement. Donc, pour beaucoup de sportifs, c'est parfois par défaut, c'est-à-dire que mon CV n'est pas reconnu dans l'entreprise parce que je n'ai pas la bonne formation, je n'ai pas fait le bon stage, je n'ai pas la bonne expérience, donc personne ne veut de moi, donc bah, je vais me débrouiller tout seul, je vais monter mon business. Et puis, il y en a qui ont réellement cette fibre dès le début d'entreprendre et qui le savent et qui s'investissent directement dans l'entrepreneuriat. Tu sais, le sportif, c'est encore une fois, c'est Gary Florimond dans le film qui dit ça. Il dit, un sportif de haut niveau, c'est un auto-entrepreneur parce qu'il doit gérer son image, il doit gérer ses contrats, il doit gérer sa performance, il doit gérer sa forme. Donc, il est déjà une petite entreprise à lui tout seul. Donc, il a déjà cette expérience-là. Et c'est vrai, pour certains, ça s'assimile tout à fait à ça.
Oui, bien sûr. En parlant de ça, tu as mentionné un peu le vestiaire. Comment est-ce que tu abordes l'ego avec eux? Je parle de l'ego dans le bon sens. On a souvent, en tout cas en France, on interprète mal le sujet de l'ego, même de l'égoïsme versus l'égocentrisme, tu vois. Il faut être un petit peu égoïste dans la vie pour savoir qui on veut, et il faut être heureux soi-même, je pense, avant de pouvoir contribuer au bonheur des autres et de ce monde. Le monde est très tourné autour d'eux, comme tu l'as dit, quand ils sont dans leur carrière, notamment quand c'est des sports individuels. Ils sont au cœur d'un projet, seuls au cœur d'un projet. Peut-être on pourra faire une dichotomie entre les sports individuels et les sports collectifs. Comment est-ce que tu abordes ce sujet-là? Comment ils peuvent transformer, tu vois, cet égo positif, cette envie, dans un monde, dans le monde de l'entreprise, tu vois?
Moi, ce que j'observe souvent, c'est que oui, ils se sont des champions dans leur discipline, et quand tu les vois comme ça, tu vois que tu as affaire à un champion. Mais dès lors que tu sors de ce champ d'expertise, là, ils retrouvent une humilité, des fois même extrême.
Ouais,
souvent,
beaucoup, ouais.
Nous, dans les jurys de sport compétences, donc un des programmes où on apprend aux sportifs à valoriser ses compétences, on a une RH qui souvent leur dit, mais arrêtez avec cette humilité à deux balles. regardez ce que vous savez faire. Parce qu'ils sont au contraire trop humbles et trop dans moi, je sais rien faire, quoi. Hein. Je suis débutant, je découvre tout, vous avez tout à m'apprendre. Donc là, tu vois, leur ego, ils savent vraiment le mettre, le laisser au vestiaire, encore une fois. Après, il y a effectivement le contraste que certains peuvent vivre par moment quand ils sont à la fois adulés dans le monde du sport et puis complètement anonymes dans le monde de l'entreprise. Pour certains, ça peut être difficile parce qu'effectivement, plus personne ne me reconnaît. J'ai vécu la situation un peu différente avec une athlète qui, elle, venait alors vraiment d'une façon très basique et discrète. Elle reprenait donc des études. Elle avait un stage à faire en entreprise. Elle avait fait 3 fois les Jeux Olympiques, donc effectivement une grande championne. Mais elle avait ça, laissé ça complètement de côté. Elle était passée à sa vie d'après et donc elle reprenait des études. Elle était en stage en entreprise. Elle n'en avait pas parlé qu'elle avait ce parcours-là. Personne ne le savait. Et ça se passait très, très bien. Et elle faisait profil bas. Et puis, avec les réseaux sociaux, certains ont découvert qui elle était, ce qu'elle avait fait par le passé. Et là, du coup, elle s'est fait... Ça a été d'une violence extrême, le regard qu'elle a reçu des gens qui lui ont dit « Arrête de te prendre pour une star !» Elle était à Montpellier, il y avait du soleil, elle avait ses lunettes. « Oh ben regarde là, le matin, enfin la semaine d'avant, tout se passait bien. Dans le week-end, ils savent qu'elle est une sportive de haut niveau. Elle arrive avec ses lunettes et on la casse en disant « Non mais regarde là, pour qui elle se prend celle-là » Alors que la semaine dernière, elle bossait avec ces gens-là et que ça se passait très bien. Donc tu vois, cette idée de l'ego, ben, des fois c'est une protection, c'est un vieux réflexe, puis dans certains cas tu ne l'as pas, mais on essaye de te le revendre, quoi. On essaye de te faire croire que tu nous en imposes avec ça. C'est hyper violent, quoi. Maintenant, objectivement, c'est une perte. C'est-à-dire que du jour au lendemain, avant tu étais connu, reconnu, applaudi, du jour au lendemain tu deviens anonyme. Il faut s'y préparer, ça aussi, il faut s'y préparer. Il faut se dire que la deuxième vie n'aura plus cet ingrédient-là et il faut trouver d'autres ingrédients à mettre à la place. Mais ça, c'est tout à fait réalisable. Ceux qui s'accrochent à leur ego sont ceux qui ne savent pas quoi mettre à la place, encore une fois. C'est-à-dire que l'ego, c'est encore une fois, c'est qui j'ai été en tant que champion.
Moi, je vois le bon ego, quoi. Qui je suis capable d'être champion, donc je suis capable de faire autre chose.
Cela, ça leur donne une énergie, au contraire, et une présence, une consistance qui est très intéressante pour l'après, parce qu'ils ont une confiance en eux, ils ont une conscience de ce qu'ils valent, et là, dans ce cas-là, ça va rouler.
C'est génial. Et tu sais quelle est la proportion de ceux qui rentrent en entreprise versus ceux qui créent des boîtes ?
Le problème de ce sujet, c'est qu'on n'a aucun élément. Les fédérations perdent la trace des sportifs quand ils n'ont plus de licence. Même les sportifs des équipes de France, lorsqu'ils arrêtent, y en a d'autres qui prennent leur place. Et ce que deviennent les anciens, on n'en sait rien. Ce qu'ils deviennent derrière, on ne le sait pas. Et on le sait encore moins quand ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire que le sportif, dès lors que ça ne se passe pas bien, il va plutôt avoir tendance à se cacher, à ne pas montrer qu'il est en difficulté parce qu'il n'a jamais appris à montrer ses faiblesses. Donc même quand tu vas le croiser, c'est ce que dit Émilie Andéol, elle dit « pendant 2 ans après, je galérais, mais je disais que tout allait bien parce que ce n'est pas entendable que quand on a été champion olympique, on puisse dire que ça ne va pas ». Donc, elle a triché avec ça pendant un moment, jusqu'au moment où elle a fait sa sortie en disant « Mais moi, je suis au RSA et j'en ai marre qu'on me dise que c'est formidable d'être championne olympique. » Parce qu'elle n'a pas su traduire ça dans le langage de l'entreprise. Parce que son parcours fait de un petit coup à droite en formation, un petit coup à gauche, un petit truc de ça, un petit diplôme d'entraîneur, etc. Ça ne fait pas un projet lisible pour une entreprise pour la recruter. C'est encore une fois, c'est toute cette traduction de tout ce qu'elle a mis pour être championne olympique qu'elle n'avait pas su faire. Bon, maintenant, tout va bien. Elle est très épanouie dans ce qu'elle fait. Mais c'est souvent une difficulté que les sportifs vont rencontrer.
Bien sûr. Dans tout ce que tu dis, je vois... qu'il y a une sorte de désalignement des intérêts, tu vois, notamment, je pense que un sportif, pour son bien-être individuel, il devrait s'intéresser à plein d'autres sujets, et mener peut-être un double cursus, peut-être même un peu plus light, tu vois, notamment avec maintenant tous les MOOC gratuits, tout le contenu qu'il y a sur Internet, tu peux quand même développer d'autres passions, d'autres source d'intérêt, tu vois, de même, même à petite dose, on va dire.
Alors, MOOC, il va falloir que tu dises ce que c'est, parce que tu as 8 sportifs sur 10 qui n'ont jamais entendu ce mot.
Ouais, ok. Hein? Ouais, mais là, effectivement, c'est un peu plus grave. Mais du coup, je t'y amène.
Oui, mais qui leur dit, qui va leur parler des MOOC?
Mais, non, mais justement, tu vois, j'ai l'impression, tu vois, en t'entendant, et je pense que c'est le cas, tu vois, que beaucoup de filières du haut niveau font tout pour mettre justement ces athlètes de haut niveau dans cette bulle. Ce qui peut se comprendre, c'est un métier, c'est déjà, c'est, comme tu l'as dit, c'est un métier à plein temps et tellement exigeant que si tu te concentres peut-être sur autre chose, peut-être que ça peut te distraire. Je suis pas d'accord avec ce postulat, je pense qu'il faut nourrir l'athlète individuellement et qu'il faut en faire des gens, des vraies personnes, quoi, pas des machines. Mais comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses maintenant?
Une fédération, elle est évaluée sur son nombre de médailles, pas sur son nombre de diplômes. Un club, ouais. Il est évalué sur le spectacle qu'il produit, voire la performance qu'il génère. Donc, tant que ceux qui organisent la vie des sportifs sont évalués sur uniquement de la performance sportive, ils vont pas forcément chercher à mettre autre chose que ce qui, selon eux, produit la performance. Heureusement, on a, tu vois, dans le film, on a Christophe Furios qui dit ben moi, un sportif épanoui, c'est un sportif performant. Si ça participe à son épanouissement que de faire des études, que d'avoir autre chose dans sa vie, eh ben c'est tout bonus et tout le monde y gagne. Alors, on est de plus en plus nombreux à marteler ce discours, à faire prendre conscience que c'est aussi le fait de pouvoir respirer, de pouvoir dédramatiser une mauvaise performance en faisant autre chose qui fait qu'on revient avec un petit peu plus d'énergie dans un quotidien où il y a essentiellement du sport. On est de plus en plus à le dire. Il y a des pays qui fonctionnent comme ça et qui montrent qu'il y a un équilibre pour le sportif à ne pas faire que du sport et qu'ils sont pour autant performants. Donc, on commence à déprogrammer un petit peu ce langage. Mais quand tu regardes dans les filières, les sportifs n'entendent quand même principalement que ça. C'est-à-dire, si tu veux réussir... il faut que tu t'occupes de ça et que de ça. Le discours et ça devient une croyance qui est totalement intégrée par le sportif. C'est-à-dire, si je veux réussir, il faut que je mette toute mon énergie là-dessus. Et dans certains cas, c'est vrai en plus. Tu vois, je pense qu'il y a pour certains sportifs où il faut qu'ils fassent ça pour réussir. Ce qu'il faut juste aujourd'hui, la porte qu'il faut qu'on ouvre, c'est de dire aux entraîneurs et aux structures, écoutez, s'il vous dit qu'il a besoin d'autre chose, laissez-le s'ouvrir à autre chose. On a beaucoup de sportifs, je pense à Florence Masnada, qui me disait que lorsqu'elle a fait sa médaille de bronze au jeu, elle a repris des études à côté, mais elle ne l'a pas dit à sa fédé, à son entraîneur, de peur qu'on lui interdise ou qu'elle se fasse sanctionner parce qu'elle faisait autre chose à côté. Elle dit, peut-être que si je n'avais pas fait autre chose à côté, je n'aurais pas mes médailles. Ou peut-être que si je n'avais pas fait autre chose à côté, j'aurais eu une médaille d'or. On n'en sait rien. Toujours est-il qu'elle a été bien dans ce choix. Et je crois qu'il faut faire confiance aux sportifs. Un sportif, ça se connaît très bien. Un sportif, ça se connaît très bien à force. Hein. Donc, quand il dit « moi, j'ai besoin d'autre chose », il faut l'entendre. Et il faut l'aider à se nourrir d'autres choses qui soient compatibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite forcément dire à un sportif qui dit « moi, j'ai besoin d'autre chose », « ah bah tu vas faire 8 heures de cours par jour ». Non, il faut arrêter de caricaturer aussi, parce que c'est ça, c'est un peu facile. On détruit facilement cette volonté du sportif de faire autre chose en caricaturant. Non, ce n'est pas parce que je vais passer 2 heures par jour à m'intéresser à un MOOC, à suivre un MOOC en finance ou en développement durable, ou que je vais aller passer une demi-journée dans un musée, ou que je vais m'aérer, que au contraire, je vais revenir avec tellement plus d'envie et d'énergie et d'oxygène. C'est juste une question d'oxygène. Moi, j'en ai actuellement, je pense à une athlète que j'accompagne, elle me dit, mais j'ai le droit de rien faire d'autre que mon sport. J'en peux plus. Moi, je vois des compétitrices d'autres nationalités qui ont leur diplôme. Elles arrivent en compétition, elles sont tellement plus détendues que moi. Et puis derrière, elles sont sereines sur ce qu'elles feront après. Moi, j'aspire à ça, mais j'ai pas le droit. C'est terrible quand t'entends ça. C'est terrible. Alors qu'aujourd'hui, enfin, on a de plus en plus d'écoles qui organisent des programmes de formation qui sont vraiment aménagés pour le sportif.
Bien sûr, et j'en ai fait partie. Donc
Voilà, maintenant, c'était pas vrai il y a 20 ans, c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a
toutes
le moyen.
Écoles de commerce aujourd'hui.
Il y a quand même beaucoup de moyens de se former et d'apprendre et de s'ouvrir à autre chose sur son temps libre. Alors pour certains, ça va être 2 heures par jour. Là, moi, je travaille beaucoup avec l'EM Lyon et je pense à Mathilde Gros, là, qui est cycliste, qui prépare les Jeux. Ils lui ont dit, écoute, l'année des Jeux, si tu veux faire zéro, tu fais zéro module. C'est pas un problème. Tu reprendras l'année d'après. Ah, c'est formidable.
Bien sûr.
Peux t'engager sur un programme long, l'interrompre 3 mois, 6 mois, 1 an si nécessaire. On va reporter, on va aménager. Maintenant, c'est possible. Maintenant, c'est possible. Il y a de plus en plus d'écoles qui proposent ça. Donc, il n'y a plus de raison de dire aux sportifs « Non, tu n'iras pas.
Ouais. »
On n'est plus dans le présentiel, on n'est plus dans des choses qui sont fatigantes parce que ça demande du temps pour y aller, c'est des déplacements. Non, mais c'est vrai, c'était une réalité. Moi, je me souviens quand je bossais avec les jeunes au CNVB ou à l'IFVB, qu'on regardait bah, « Je vais arriver dans telle ville, alors la fac, elle est là, la salle d'entraînement, elle est à l'autre bout de la ville et puis on va être logé dans un troisième quartier. » Tu te dis « Bah non, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. » Objectivement, c'est quand même très compliqué. Tu as déjà 3 heures de transport par jour pour relier tes différents lieux, donc c'est pas possible. Mais maintenant, avec le distanciel, on a quand même des opportunités qui sont très intéressantes. Mais il y a un truc sur lequel je veux revenir qui est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les choix, les orientations par défaut. Moi, je voudrais vraiment qu'on organise les choses d'une façon un peu sensée, c'est-à-dire que avant de choisir un projet de formation, on définisse un projet professionnel. Parce qu'aujourd'hui, on définit un projet de formation sur la base de « on est bon là, on n'est pas bon là, il y a de la disponibilité là, j'ai des horaires aménagés là ». Mais si derrière, ça ne mène à aucun projet professionnel qui m'intéresse et qui ne me convient, j'ai tout perdu. C'est-à-dire que les efforts de dingue que j'ai fait pour concilier ma pratique sportive avec mes études, ça ne sert à rien. Moi, j'en ai plein qui sont allés au bout du master STAPS. Hein. Oui, mais je veux faire du commerce. Ah, bah écoute, il va falloir que tu reprennes une formation. Tu te rends compte de l'énergie qu'ils ont laissée au passage ? Donc, commençons par aider le sportif à s'orienter, à définir un projet qui l'intéresse. Je milite pour ça depuis des années, pour que la première année dans les centres de formation des clubs professionnels, où ils doivent avoir cette fameuse inscription en fac, si le môme, il ne sait pas vers quoi aller, il n'a pas d'envie, eh bien, on lui dit, tu vas prendre une année d'orientation. Et là, on met en place un processus accompagné de découverte des métiers. Aujourd'hui, tous les clubs, ils ont des entreprises partenaires, des sponsors. Eh bien, plutôt que de n'être que le chéquier du club, ils peuvent devenir partenaires de cette insertion, de cette future insertion professionnelle. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ? Tu as 3-4 secteurs qui t'intéressent ? Eh bien, écoute, on va organiser des immersions pédagogiques dans ces 3-4 univers. Et puis, progressivement, tu vas te rendre compte, bah, celui-là me plaît, celui-là me plaît pas. Je réduis mon champ des possibles. Je vais découvrir des métiers. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Je réduis, encore une fois, je zoome, je me centre sur ce qui a l'air de me plaire mieux. Et là, l'énergie pour suivre des études, on va l'avoir quand on sait à quoi ça nous mène. Parce que ce métier me fait envie, cet univers professionnel me fait envie. Du coup, me former, bah oui, ça me fait envie. Parce que quand tu vas aller te former pour un métier, enfin, c'est épuisant d'avancer, d'aller suivre des cours quand tu ne sais pas à quoi ça va t'amener, sur quoi ça va déboucher. C'est épuisant. Enfin, n'importe qui craquerait. Alors eux, en plus, ils ont un autre métier à côté qui est celle de produire de la performance en permanence. Il faut être raisonnable, 5 minutes, quoi. Il faut. Non, mais c'est vrai.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça me fait beaucoup penser à notre échange à l'armée aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes à faire.
C'est des univers auxquels ils pensent beaucoup hein, dans leur après-carrière. L'armée, la police, la gendarmerie, les pompiers, c'est des univers comme ça qui sont très structurés, où il y a une hiérarchie, où c'est très rigoureux, où il y a beaucoup de sportifs qui sont attirés par ces univers-là. Le problème...
C'est loin de la vie de bureau, c'est plus
c'est
terrain.
Ça, c'est ça, c'est plus actif. Mais le problème, c'est qu'on a souvent des limites d'âge où il faut que tu puisses faire ces préparations à ces métiers-là à temps plein.
Ouais, ouais.
Et donc, moi, j'en ai beaucoup qui abandonnent en disant bah, « ça m'aurait bien plu, mais les process d'entrée dans ces filières-là ne sont pas compatibles avec le sport.
Ouais. » Non, mais quand je te disais que je pensais à l'armée, c'est que pour avoir eu quelques copains officiers, sous-officiers ou même soldats du rang, ils dédient leur vie, si tu veux, ils dédient leur vie à l'armée et à aucun moment, ils préparent la sortie, quoi. À aucun moment, et c'en est arrivé, effectivement, pour certains, de partir sur des zones de guerre, d'avoir un vrai traumatisme, qui peut être physique ou psychologique, d'ailleurs, et d'être absolument plus capable de pratiquer leur métier. Et là...
Écoute-moi, il me semble que l'armée... de ce que j'ai vu, c'est que l'armée avait des process justement d'aide à la reconversion qui étaient très aboutis et très intéressants. Hein. Et avec notamment des formations à d'autres métiers.
Alors, je pourrais demander à mes copains, parce que pour le coup, c'est un sujet qui t'intéresse. Il y a des poches de financement qui sont possibles, mais tu restes tout seul. Tu restes tout seul. Après, peut-être que, et je pense que c'est le cas, il y a peut-être un effet un peu de solidarité qui peut se créer aussi entre militaires. En
tout cas, j'avais compris qu'il y avait un service de reconversion, mais bon, écoute, ça se
vérifie. Oui. En tout cas, ça doit être forcément plus abouti que dans le sport, et parce que c'est un monde plus structuré, on va dire, et plus ancien. Mais en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. On va pas tarder à terminer, mais est-ce que aujourd'hui, tu vois, comment est-ce que le commun des mortels, tu vois, peut aller dans ton sens pour justement penser un peu à l'après, ne pas faire que des machines de guerre. Effectivement, on voit, tu vois, des Martin Fourcade, des Tony Estanguet, des très très belles figures du sport qui ont une après-carrière qui a l'air radieuse en tout cas. Il y en a plein d'autres, si on les cite pas, c'est qu'on les a oubliés, qui sont plus là. Comment est-ce qu'on peut, tu vois, t'aider mettre notre pierre à l'édifice, tu vois, contribuer un peu à cette cause, je pense que qui est une cause sociale et sociétale et importante. Et bon, je suis désolé de le dire, mais le monde du sport, business, est toujours en retard sur beaucoup, enfin sur tous les sujets, qu'on le dise clairement. Comment est-ce qu'on peut y contribuer? Qu'est-ce qui peut changer un petit peu la donne?
Moi, j'ai fait le film vraiment pour essayer de changer le regard de la société sur un sport, sur le sportif. Moi, je suis un peu plus âgée que toi. Je ne sais pas si tu avais connu ce jeu télévisé il y a de longues années qui s'appelait La tête et les jambes. C'était un jeu où c'était des épreuves qui opposaient deux équipes, et les deux équipes étaient constituées de quelqu'un qui réfléchissait et de quelqu'un qui faisait une activité physique. Parce qu'on considérait que la même personne ne pouvait pas faire les deux. Mais on est quand même encore beaucoup dans cette représentation du sportif. Alors, les gens que tu cites, les Martin Fourcade, les Tony Estanguet, ce sont les arbres qui cachent la forêt, ce sont les exceptions. Et il n'y a que, enfin, il y en a d'autres. Justement, ils sont peu nombreux, parce que les autres, ben, ils n'ont pas forcément aussi bien réussi leur reconversion, ou d'une façon moins visible, et on ne sait pas qu'ils donnent à nouveau,
qui font des
choses extraordinaires.
Mais
personne ne le sait. Et tu as même dans des entreprises des gens qui ont d'anciens sportifs, mais qui ne savent pas qu'ils sont d'anciens sportifs. Et qui font des carrières incroyables, parce que le sportif, une fois qu'il a tourné la page, Bon. Je pense qu'on est quand même toujours un petit peu dans cette représentation du sportif. Moi, j'ai énormément de sportifs qui me disent « Ouais, mais enfin, tu sais, dans les dîners en ville, on nous prend pour des idiots quand même. Hein. Si on est sportif, on ne sait pas parler. » Et on s'appuie sur quelques interviews d'après-match ou de fin de course où effectivement, le mec, il est un petit peu en rage parce que ça ne s'est pas bien passé et où il n'a pas forcément la bonne formule ou la bonne expression. Et donc, on va caricaturer et dire « Putain, il est vraiment idiot celui-là », et à partir de là on en fait une généralité à se dire les sportifs ils n'ont pas grand chose dans le chou. Et ouais, franchement, j'ai trop de sportifs qui me disent qu'ils subissent ce regard-là pour penser que ça n'existe pas. Donc la première chose, c'est de réussir à se rendre compte et c'est vraiment un des objectifs de mon film, c'est regarder ce que c'est que de faire une carrière de sportif à haut niveau. C'est un truc quand même qui est pas simple et qui demande d'avoir un truc entre les deux oreilles, ouais, et qui fonctionne, parce que c'est pas par hasard qu'on est un champion. On met en place tout un tas de processus, de démarches, de compétences qui sont extrêmement importantes. Donc c'est essayer de regarder avec un petit peu plus de bienveillance et d'ouverture ce que c'est qu'un champion, considérer que sa vie d'après, c'est pas forcément être uniquement entraîneur ou coach ou tu vois, il peut faire d'autres choses, ou consultant télé, et c'est exactement ça. Il a le droit d'avoir envie de sortir de son milieu d'origine, il a le droit d'avoir envie de faire autre chose, quoi, zut. Tu vois, donc avoir de l'ouverture vis-à-vis du sportif, vis-à-vis de ses capacités, vis-à-vis de ce qu'il peut apporter à la société. Donc ça, je dirais, c'est la base, s'ouvrir un peu à eux, et puis apprendre, apprendre à voir ce qui se cache derrière un parcours, l'écouter, comprendre toutes les difficultés qu'il a dû traverser, relever, apprendre ce qu'il a mis dans sa carrière pour performer. Moi, ça fait 20 ans que j'accompagne des sportifs. Je ne sais pas combien j'en ai accompagné, mais enfin, ça commence à chiffrer quand même. Je n'ai pas le souvenir d'un individu pour lequel je me suis dit, putain, lui, on ne va rien en faire. Je n'ai pas ce type de souvenir. À chaque fois, il y avait quelque chose. Alors, chacun a ses qualités différentes, mais pour chacun, il y a un autre possible.
Bien sûr. Écoute, l'interview arrive à la fin. On est passé beaucoup de bonnes choses. J'ai des petites questions pour la fin. Il y en a une, c'est si tu pouvais justement à tous ces sportifs de haut niveau leur offrir un livre, autre que le tien malheureusement. Tu peux leur offrir un livre ou les forcer à regarder un film. Qu'est-ce que tu choisirais de leur montrer ou de leur...
Alors,
leur faire lire
encore
ou leur
une fois,
faire...
c'est daté, mais souvent c'est une scène à laquelle je fais référence quand je travaille avec des sportifs. C'est le cercle des poètes disparus, pour illustrer l'idée de changer de point de vue géographique, pour justement les amener à regarder à la fois leur expérience et l'expérience des autres et comprendre l'autre en se mettant à sa place. Je trouve que c'est, encore une fois, c'est se déplacer et donc aller vers l'autre et donc ne pas rester dans une situation bloquée vis-à-vis de mon interlocuteur, mais essayer de me déplacer pour voir ce qu'il voit, son point de vue géographique qui forcément fait qu'il ne voit pas la même chose que moi et que c'est pas qu'il a tort et que j'ai raison ou l'inverse, c'est simplement qu'on voit pas les choses sous le même angle, donc de les inciter à se déplacer et aller vers l'autre et à créer plus de compréhension mutuelle.
Super film, Le Cercle des poètes disparus, j'ai adoré. Quel est le nom de cet acteur déjà? J'oublie qui fait
moi
le
aussi.
Super prof.
Ouais.
Bref, si vous l'avez pas vu, c'est un film à voir absolument. C'est un chef-d'œuvre. Écoute, merci beaucoup Véronique. J'ai passé un très bon moment. C'était très riche.
Merci à toi.
J'espère qu'on aura donné beaucoup de billes aux auditeurs, aux futurs champions qui nous écoutent et à la fois aux champions, aussi ceux qui viennent aussi du monde civil et de se dire, bah tiens, on peut mettre plus en avant nos compétences sportives dans le monde de l'entreprise. On peut faire le pas dans l'autre sens aussi, je pense, tu vois.
Tu sais, il y a ce fameux CV. Et les sportifs, quand ils sortent d'une carrière, ils vont faire un CV où ils vont dire, bah voilà, de 2010 à 2011, j'étais dans tel club. De 2011 à 2012, j'ai gagné tel truc. De 2012. Alors, il faut qu'ils s'entendent une fois pour toutes que le monde de l'entreprise n'en a rien à faire. Ou alors, on a ceux qui, parce qu'ils ont un parcours académique, vont mettre leurs 7 titres de champion de France dans la colonne d'hiver en bas de la page. Et là, je leur dis non, essayez de valoriser ça. Enfin, le CV est la première chose que l'on montre de soi quand on veut passer dans le monde de l'entreprise. Et par pitié, essayez d'y valoriser justement toutes les compétences que vous avez développées dans votre parcours sportif sans entre dire j'ai gagné, j'étais dans tel club, j'ai fait 25 clubs dans ma vie et tous les énumérer, ou dire simplement je suis 7 fois champion d'Europe de mon sport. Il y a un juste milieu, ce juste milieu c'est dans la valorisation des compétences justement de ce qu'ils ont développé dans ce parcours. Donc voilà, c'était juste un truc que je voulais dire sur le CV parce que c'est dramatique quoi. Vraiment c'est pas vendeur. Il faut vraiment bosser là-dessus.
Ok, tu as raison. Écoute, merci beaucoup Véronique, j'ai vraiment passé un très bon moment. Encore une fois, j'espère qu'on aura donné des clés, donné des billes, et je pense que c'était très concret. Allez regarder absolument cette série documentaire. Le film n'est pas dispo, c'est la série qui est dispo du coup.
La série est dispo sur Sport en France, le sport des médailles après, et moi je vais porter le film et éventuellement la série aussi, mais sur le territoire, je pars pour une tournée.
Ok. Donc voilà, vous pouvez le retrouver depuis votre moteur de recherche préféré sur la plateforme Sport en France. Et puis dites-nous ce que vous en avez pensé. On sera ravis d'avoir votre retour, votre point de vue. Voilà. Salut Véronique.
Merci beaucoup Barthélémy.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.